Les infos présentées par Hugues Chamberger sur Radio Transparence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Transparence. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. La communauté de communes des Portes d'Ariège-Pyrénées a emménagé l'an dernier dans des locaux rachetés à Engie, locaux actuellement en rénovation avec un objectif d'exemplarité environnementale. Alors une rénovation par ailleurs accompagnée par l'État dans le cadre du Fonds vert, un fonds destiné à accompagner des projets vertueux menés par des collectivités et même demain par des industriels. À Foix, petit à petit, la façon de circuler en centre-ville évolue et la rue Delcassé est passée il y a quelques mois en zone de rencontre. Alors en gros, les piétons y sont prioritaires, les vélos peuvent circuler dans les deux sens et les voitures, ben, elles doivent faire attention. Alors derrière ces règles, il y a tout simplement la question du vivre ensemble, comme nous l'expliquera Guy Lozac, l'adjoint aux travaux de la municipalité. Mais pour commencer ce journal, c'est une page du carnet noir que nous allons ouvrir avec vous, avec le décès d'André Trigano, c'était ce matin. André Trigano a été maire de Pamiers, faut-il le rappeler, entre 1995 et 2020, et avant cela, maire de Mazères, c'était entre 1971 et 1995, soit presque 50 ans de mandat de maire pour ce chef d'entreprise qui avait été par ailleurs député, conseiller régional, conseiller général. André Trigano a aussi présidé à la destinée de la SIAT, la Société internationale André Trigano, spécialisée dans le matériel de camping, ainsi que d'une société qui gérait 20 établissements d'hôtellerie de plein air en France, même un peu plus. Au-delà de ses activités, André Trigano a été un personnage parfois complexe à saisir pour ses interlocuteurs, tant il n'a jamais souhaité se contraindre à quelque idéologie, quelle qu'elle soit. Il appelait ça la politique du bon sens, celle qui permet de faire des choses avec intelligence, tout simplement. Et c'est en ce nom qu'après avoir siégé comme radical valoisien, à savoir au centre droit de l'Assemblée en 1993, avec une majorité de droite, André Trigano, élu par ailleurs d'opposition à la région, a fini à s'assimiler à la majorité socialiste de cette dernière. C'est aussi au nom de ces principes qu'il a décidé à l'aube des années 2000 de faire confiance à une conseillère municipale d'opposition, Françoise Matricon, et ouvrir la porte à ce que l'on appelait à l'époque les cantines de terroir. C'était totalement précurseur à l'époque. Ainsi d'ailleurs, toujours avec Françoise Matricon, qui a une politique municipale qui avait visé à la sobriété énergétique et à faire des économies en mettant par exemple des ampoules à basse consommation. On était vraiment à l'aube des années 2000. A contrario, on se rappelle du choix à l'époque de déporter l'activité commerciale de la ville de Pamiers vers la périphérie, vectrice d'emploi selon lui, mais par ailleurs, choix vilipendé par ses oppositions qui ont souvent imputé les difficultés du centre-ville à ce choix justement de la périphérie. Ce qui reste aussi d'André Trigano, et je ne serai pas exhaustif, c'est l'image d'un homme jovial, affable, vif d'esprit, toujours accessible et toujours prêt aussi à un petit geste, un petit mot gentil quand vous le croisiez. Il s'était mis en retrait de la vie publique après son échec au municipal de 2020, mais pour autant était toujours présent en surplomb, incapable de laisser tomber une ville de Pamiers et une Ariège qui lui étaient viscéralement attachées. 99 ans, c'est un bel âge pour mourir, et pour autant André Trigano laisse un grand vide. Ce sera un grand vide en Basse-Ariège, et sans doute bien au-delà de cette dernière. Ça y est, le printemps semble s'installer, timidement d'accord, mais les températures remontent. Alors pas assez, je vous l'accorde, pour envisager la future canicule, mais quand même, elle arrivera fatalement, comme tous les ans maintenant. Alors un plan canicule est mis en place, un plan destiné à prendre soin des personnes fragiles, et notamment celles qui sont âgées ou en situation de handicap. Alors si vous êtes concerné ou l'un de vos proches, vous pouvez, je vous donne une adresse mail, contacter le CCAS, le Comité Communal d'Action Sociale, deux fois, ccas@mairie-foix.fr. Ce dispositif, il consiste tout simplement à prendre des nouvelles des personnes qui ont été identifiées comme étant éligibles. Alors les personnes éligibles, c'est celles qui vivent seules elles sont contactées en cas de déclenchement d'un plan d'alerte canicule. Donc les publics visés sont les personnes âgées vivant seules, alors celles qui ont soit plus de 65 ans tout court, soit plus de 60 ans mais inaptes au travail, et puis bien évidemment aussi les personnes en situation de handicap qui sont elles aussi isolées. Je vous redonne l'adresse mail, c'est ccas@mairie-foix.fr. À Pamiers, donc, la communauté de commune des Portes d'Ariège est entrée dans de nouveaux murs, peut-être le savez-vous, des murs situés dans les anciens locaux d'Engie. On est vraiment à l'entrée du cœur de ville, mais ces locaux, ben, il a fallu les réaménager, créer aussi un nouveau bâtiment pour notamment pouvoir accueillir un conseil communautaire et puis aménager le parking, le tout en suivant des principes de respect de l'environnement avec parking en herbe, réutilisation de matériaux dans le cadre d'un bâtiment démonté qui sera remonté ailleurs, installation de panneaux solaires ou plus exactement de tuiles solaires, plantation d'arbres, développement du transport en vélo et j'en passe. Et de toute façon, eh bien, maintenir d'ores et déjà la communauté de communes en centre-ville et ses services à proximité des habitants, on parle des crèches notamment, hein, et faire le choix de réhabiliter une friche, bah, c'est déjà des choix forts pour le président de l'intercommunalité, Alain Rocher.
Ce projet, il est inscrit, c'est une friche que nous avons souhaité réhabiliter en plein centre-ville de Pamiers, au cœur des populations, et donc en faire un projet de rénovation énergétique à la fois sur le bâtiment, sur les technologies du bâtiment, et aussi sur la désimperméabilisation du parking pour, favoriser la désimperméabilisation des terrains et l'infiltration lente de l'eau, qui est un des enjeux majeurs pour notre avenir.
Réfléchir un petit peu plus à la façon dont on va imperméabiliser ou pas des sols. Au moment où l'on construit, ben, on pense finalement à ce que l'on va déconstruire. Voilà. C'est de zéro artificialisation.
C'est difficile à dire. Zéro artificialisation nette, une trajectoire pour 2050, mais qu'on peut déjà mettre en œuvre dès aujourd'hui, puisqu'on voit bien que sur ce site, on va à la fois désimperméabiliser et à la fois construire de la construction. Donc il est possible d'ajouter des surfaces de bâtiments tout en préservant l'environnement le développement durable qui est associé.
Voilà, parce que quand on parle environnement, écologie, on va parler panneaux solaires, parking enherbé, etc. Et vous, on a bien compris que l'idée de mettre ça dans un grand tout, avec du vivre ensemble, avec l'accessibilité pour le service d'inscription aux crèches, avec que finalement l'écologie, elle est beaucoup plus globale que celle d'une installation.
Alors effectivement, il y a 9 plans que l'on a développés, mais vous avez souligné le fait qu'on allait mettre, bien qu'on soit dans des sites protégés par l'architecte des bâtiments de France, on va mettre en place des tuiles solaires qui vont nous assurer une certaine autoconsommation sur le site. Donc oui, c'est possible de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur des territoires ABF, c'est déjà un premier point. Effectivement, on s'est installé en cœur de la ville de Pamiers parce qu'une partie des personnes qui viennent au service de la communauté commune ne sont pas véhiculées et qu'il était donc important qu'elles puissent venir nous rejoindre, soit à pied, soit en vélo idéalement, puisqu'on aura aussi un parking vélo pour les agents, pour les usagers et pour la collectivité. C'est surtout son implantation qui est au cœur de la ville, permet d'abord d'amener du dynamisme à la collectivité. Quand nous serons les 50 agents réunis, c'est quelque part 50 personnes qui à midi iront manger à côté, feront vivre les commerces, iront acheter le pain à la boulangerie, à pied, donc sans utiliser de véhicule. On est vraiment, je crois, dans le sujet de la réhabilitation des centres-villes et dans la réactivation de l'intérêt d'habiter ou de vivre en centre-ville.
Puis il y a cette dimension finalement que prennent les intercommunalités aujourd'hui. Ce sont des collectivités qui ont des compétences importantes, qui sont, on le sait, très méconnues de la part des gens. Et on voit bien que créer aussi des guichets d'accueil pour les services, montrer qu'on est là, c'est peut-être leur faire franchir un palier aux intercommunalités.
Alors les intercommunalités, elles ont un intérêt, c'est de pouvoir agir sur des sujets où les communes n'ont plus la taille suffisante pour pouvoir développer des politiques, notamment pour l'habitat, sur la mobilité. On voit bien que la mobilité, la commune n'est plus l'échelle pertinente. Il faut à minima que ce soit l'intercommunalité, voire le regroupement d'intercommunalités sur certains sujets. Je pense typiquement au réseau de bus. Si demain on imaginait un réseau de bus sur la communauté des communes Port d'Ariège-Pyrénées, elle serait forcément en lien avec ce qui se réalise sur l'agglo Foix-Varilles. Aucun intérêt d'aller faire deux réseaux séparés. Travaillons ensemble.
Voilà, ça s'appelle travailler avec bon sens. Alain Rocher, président de la communauté de communes des Portes d'Ariège. Bon, alors le projet qui frise les 3 millions d'euros, il a été accompagné entre autres par ce que l'on appelle le fonds vert, un fonds mis en place par l'État destiné à permettre aux collectivités d'aller plus vite vers la transition et qui aussi a pour but d'accélérer tout simplement dans leur conception les projets publics. le sous-préfet de l'arrondissement de Pamiers, Jean-Baptiste Morino.
C'est une mesure lancée par le gouvernement en 2023 et qui vise justement à accompagner les dossiers de transition énergétique tels qu'aujourd'hui au siège de la CCPAP et qui vise justement à accélérer à travers ce fonds-là, qui est largement abondé au niveau de l'État et qui était largement abondé en Ariège. Je le répète, 7 millions d'euros de fonds verts en 2023 pour le département en Ariège, pour accompagner tous les collectivités locales vers la transition énergétique.
C'est quelque part l'idée que chaque projet mené par une collectivité, il doit avoir cette dimension-là dans son ADN. C'est un petit peu favoriser ça.
C'est favoriser ça, c'est favoriser, comme l'a rappelé monsieur le Président, le fait qu'on veut aussi éviter le plus possible l'artificialisation des sols et donc se concentrer véritablement sur l'existant. Et aujourd'hui, je pense que vous en avez un exemple parfait, à la fois avec une rénovation énergétique du bâtiment, avec un parking qui va être désimperméabilisé, avec des panneaux photovoltaïques qui vont être installés. Le fonds vert, c'est ça. Là, sur l'opération en tant que telle, c'est environ 100 000 euros injectés par l'État pour aider à la réalisation de ces projets extrêmement vertueux pour l'avenir.
Mais là, on se dit, la communauté de communes du pays des Portes d'Ariège l'aurait fait de toute manière, finalement, peut-être même sans ce coup de pouce. Est-ce qu'en 2024, au 21e siècle, on peut encore imaginer des collectivités qui auraient besoin d'un fonds vert pour aller vers la transition? Allez-y, soyez francs.
Je pense que oui, sachant que voilà, on a tous vécu ces dernières années un petit peu compliquées en termes de Covid, en termes de crise et d'augmentation du prix de l'énergie. Et je pense que ce fonds vert arrive à point nommé véritablement pour accélérer cette transition énergétique pour des collectivités qui ont eu peut-être aussi certains soucis de trésorerie et pour qui le fonds vert peut être justement l'effet déclic pour permettre d'accéder et pour permettre de réaliser très concrètement ces mesures de transition énergétique.
Le signe qu'on passe la seconde ?
Le signe, on passe clairement la seconde et on passe surtout la démultiplier, plus que la seconde.
Ouais. Vous avez dit aussi, un des intérêts de ce fonds vert, c'est finalement d'accélérer les projets publics. L'argent arrive vite, mais les projets doivent partir vite aussi pour que l'argent arrive vite. Donc, c'est le cas ici. Les travaux sont en cours, le fonds est débloqué et c'est fait dans l'année.
Le but, c'était de proposer un guichet très accessible avec une saisine des services de l'État et ensuite des services instructeurs qui se fasse dans l'année N et avec des dotations justement qui arrivent dans l'année N pour montrer justement que le fonds vert est une dotation qui est efficace, qui est pragmatique et qui arrive rapidement et pour des projets concrets. Je pense que l'exemple d'aujourd'hui est le plus vertueux qui soit.
Et qui arrive simplement, alors vous imaginiez que c'était un processus qui pouvait être très simple et on nous a dit bah oui mais ça nous amène aussi les collectivités peut-être à acquérir des compétences, à calculer du bilan carbone, à calculer des kilowatts etc. Et ça on n'y avait pas pensé, et peut-être acquérir de nouvelles compétences, embaucher des nouvelles compétences aussi comme des ingénieurs en consommation énergétique par exemple. Voilà, on voit bien que c'est, il y a tout un monde qui s'ouvre,
hein. Et c'est pour cela je pense qu'il faut clairement que dans ce mouvement d'accélération l'État puisse accompagner. Ça veut dire proposer à la fois ces différentes subventions mais aussi accompagner en termes d'ingénierie technique et financière. Je pense que c'est essentiel, et c'est le retour aujourd'hui que nous faisait le DGS de la communauté de communes, et je pense qu'on doit tenir compte de cela, mais je vois pas forcément de frein à cet accompagnement, sachant que tout cela commence à rentrer dans le langage commun. Tout le monde commence à être un peu acculturé à ces différents termes, à ces façons de fonctionner, et avec des services de l'État voilà, qui se mettront au diapason pour aider au mieux les collectivités.
Le sous-préfet de Pamiers, Jean-Baptiste Morizot. Allez, retour à Foix où la rénovation urbaine va avec une façon repensée du partage de la ville quand on parle de circulation. Alors la zone de rencontre, c'est son nom, c'est un centre ancien en zone 20 où les vélos peuvent circuler dans les deux sens, attention, et les piétons traversés où bon leur semble. Les piétons sont prioritaires, les vélos sont aussi prioritaires sur les voitures, mais pas sur les piétons. Mais finalement, l'idée, c'est vraiment de faire attention les uns aux autres. Alors, la rue d'Alcacé, elle a été refaite à neuf récemment. Elle est entrée en zone de rencontre et de nombreux usagers de la route ne semblent pas encore en avoir intégré l'esprit de cette zone de rencontre. Il s'agit en fait, je le disais, de tenir compte les uns des autres. Alors, la mairie, pour cela, a installé des panneaux pédagogiques aux principaux points d'entrée, mais au-delà de ces panneaux, hein, pour l'adjoint aux travaux Guy Lozac, il y a là une véritable question de partage de l'espace urbain et une révolution qui doit s'instaurer dans les têtes. On l'écoute.
C'est un espace partagé, avec évidemment une priorité aux piétons et surtout priorité aux mobilités douces.
Donc le piéton, quand on est en zone de rencontre, a priorité sur tout le monde. Le vélo sur les voitures en ayant le droit de circuler dans les deux sens et donc les voitures doivent faire attention. Ça, c'est le principe de la zone de rencontre. Vous avez dit, vous, ça va vraiment plus loin que ça. On est vraiment sur une notion de partage de l'espace, j'allais dire de faire attention à l'autre.
Oui, c'est une notion surtout de vivre ensemble, hein. Vivre ensemble, ne pas être en conflit permanent entre voitures, cyclistes et piétons. Oui. Sachant que les piétons sont toujours prioritaires, sachant que les véhicules motorisés, y compris les vélos, eh bien, leurs conducteurs doivent rester maîtres de leur véhicule ou de leur vélo. Oui.
Alors, ça, ce sont des dispositions qui sont prévues dans le code de la route. Il y a des panneaux, sauf que finalement, le constat que vous avez tenu en écoutant un petit peu les gens, c'est que on n'est pas encore tous bien au courant et que de la pédagogie est nécessaire aussi.
Oui, la pédagogie est nécessaire. C'est pour ça qu'on a installé ces panneaux.
Donc des panneaux pédagogiques qui expliquent exactement les droits des uns et des autres.
Voilà, c'est bien ça. Ça explique qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire.
Oui. Est-ce qu'on est en droit de trouver aussi sur la chaussée, par exemple, quand on est dans ces zones de rencontre, donc dans le centre historique de Foix, par exemple, les passages piétons vont tendre à disparaître puisque on traverse où on veut.
Oui, en zone de rencontre, il n'y a pas de passage piéton, puisque le piéton traverse où il veut. Le piéton est prioritaire partout, donc il n'y a plus de passage piéton dans ces zones de rencontre. Ouais. Enfin, moi, je préfère le mot zone partagée. Hein.
Zone partagée ou zone 20, peut-être, pour que les auditrices, les auditeurs comprennent. Ouais. Et on voit les panneaux à l'entrée de ville, ils sont bleus, et on voit la voiture avec ce petit panneau 20. Dès lors que l'on est dans ce cadre-là, on est finalement dans une configuration de cette zone partagée.
C'est cela, c'est exactement cela.
Toujours étonnant les interviews où l'on a l'impression de parler plus que la personne que l'on essaye de faire parler. C'est la vie, c'était Guy Lozac, adjoint aux travaux de la mairie. Deux fois, zone de rencontre donc en centre-ville de Foix. Faites attention si vous êtes en voiture, les panneaux explicatifs sont là, ils sont pas énormes. Hein, mais si vous roulez à 20 à l'heure, normalement vous aurez le temps de comprendre ce qu'ils veulent dire. Dans tous les cas, sachez-le, on est dans une logique de partage de l'espace urbain et puis petit à petit, peut-être de chemin vers une possible, un jour, m'a-t-on glissé, disparition de la voiture dans le centre ancien à Foix. Le sujet est glissant, donc on ne va pas aller plus loin que ça pour le moment. Mais bien évidemment, l'idée, elle est de tendre vers ce genre de choses du côté de la mairie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour y réagir, envoyez vos infos. Vous pouvez passer par le site radio-transparence.org, un site muni de tout ce que vous pouvez rêver comme outil pour interagir avec nous. Vous pouvez aussi nous écouter en direct ou écouter nos podcasts en différé. Les réseaux sociaux, Facebook, Radio Transparence, Instagram, Transparence 93.7 pour nous liker, hein, comme on dit, et puis devenir amis avec nous. On kiffe, hein, et puis surtout, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est censé servir à ça. Le téléphone, le 05 61 65 50 00. À très bientôt sur notre antenne. Au revoir.